Journal de la rédaction présenté par Aurélie Kiefer. Bonsoir Aurélie.
Bonsoir Julie, bonsoir à tous. Comme un rappel des débuts de la révolution tunisienne, un journaliste tunisien s'est immolé par le feu pour dénoncer la situation économique dans la région de Kasserine. Explication dans un instant avec Michel Picard. Un tribunal américain condamne la Corée du Nord à payer plus de 500 millions de dollars pour sa responsabilité dans la mort d'un étudiant américain après 18 mois de détention. De quoi rafraîchir les relations entre Washington et Pyongyang, nous dira Grégory Phillips. Une promesse, zéro SDF. La réalité, de plus en plus de sans-abri. L'association Droit au Logement se mobilise contre le logement cher et se dit solidaire des Gilets jaunes. Nos différences ne sont pas un préjudice ni un danger, elles sont une richesse, déclare le pape François. Dans son traditionnel message de Noël, il invite les hommes à se rappeler qu'ils sont tous frères en humanité. Le syndicat national des journalistes tunisiens envisage d'appeler à la grève générale après la mort d'un journaliste reporter d'images, Abdelrazak Zorghi. Cet homme de 32 ans est mort hier soir après s'être immolé par le feu. Par cet acte désespéré, il voulait dénoncer la dégradation des conditions de vie dans la région de Kasserine, dans le centre-ouest de la Tunisie. Ce drame rappelle les débuts de la révolution tunisienne il y a 8 ans. L'immolation d'un jeune vendeur ambulant de Sidi Bouzid avait déclenché des manifestations sociales qui s'étaient ensuite propagées dans tout le pays. La correspondance de Michel Picard.
Trentenaire et père de famille, Abdelrazak était caméraman et photographe. Avant de se suicider par le feu, il a publié une vidéo poignante sur les réseaux sociaux, appelant les chômeurs de sa région, parmi les plus défavorisés du pays, à se mobiliser pour revendiquer leur droit à l'emploi. Il dénonce les conditions de vie des habitants de Kasserine, qu'il qualifie d'affamés et marginalisés. « Je vais initier une révolution seule », lance-t-il enfin, après avoir fustigé 8 ans de promesses non tenues, en référence aux attentes déçues nées de la révolution de Jasmin. Son geste rappelle ouvertement l'immolation par le feu dans la même région, en décembre 2010, de Mohamed Bouazizi, ce vendeur ambulant dont la mort fut l'un des déclencheurs de la révolution tunisienne et de la chute du régime Ben Ali. Après la récente immolation, des heurts ont éclaté entre police et manifestants à Kasserine. Le ministère de l'Intérieur évoque 6 policiers blessés. Aujourd'hui, la situation économique et sociale du pays est délétère. L'inflation à 8%, le chômage au-dessus de 15% et la chute continue du dinar laissent craindre de nouvelles mobilisations contre la vie chère dans les jours à venir. Certaines voix n'hésitent plus à dire ouvertement qu'hormis la liberté d'expression, tous les facteurs sont au rouge. Pire qu'avant la révolution de 2011.
Michel Picard à Tunis pour France Culture. En Libye, une attaque menée contre le ministère des Affaires étrangères a fait au moins 3 morts à Tripoli, dont un diplomate libyen. Le ministre de l'Intérieur reconnaît que le chaos sécuritaire continue de faire de son pays un terrain fertile pour le groupe État islamique. Et il demande la levée partielle de l'embargo sur les armes imposé par l'ONU. Levée nécessaire, selon lui, pour rétablir la stabilité en Libye. Après la mort de 2 Scandinaves au Maroc, égorgés et décapités dans la nuit du 16 au 17 décembre, on en sait un peu plus sur le profil de leur meurtrier. À ce jour, la police marocaine a procédé à 19 arrestations et 4 personnes sont suspectées d'être les auteurs de ces actes dont le caractère terroriste est désormais attesté. Une vidéo montrant les tueurs présumés faire allégeance à Daesh est actuellement expertisée par Rabban Din Epstein.
Les enquêteurs analysent dans les détails cette vidéo tournée une semaine avant les crimes et dans laquelle les 4 suspects arrêtés jurent fidélité au calife autoproclamé Abou Bakr al-Baghdadi. Pour autant, les autorités affirment qu'il s'agit d'actes solitaires sans lien opérationnel avec Daesh. Il n'y a aucune preuve de contact établi ni en Syrie ni en Irak, pas même en Libye. Les 4 accusés se seraient radicalisés via les réseaux sociaux. Ils menaient une vie ordinaire dans une cité populaire de Marrakech, en bon voisinage avec les gens du quartier. Âgés de 25 à 30 ans, ils étaient marchands ambulants ou artisans occasionnels. Leur niveau d'études et d'instruction est très bas. 15 autres personnes liées au meurtrier viennent d'être arrêtées. Selon la police, les victimes ont été poignardées, égorgées, puis décapitées. Mais la cible n'était pas les pays scandinaves, mais bien le Maroc. Presque 1700 Marocains combattent dans les rangs de l'État islamique. 242 ont été interpellés lors de leur retour au royaume chérifien. Depuis les 17 morts de l'attentat à Marrakech en 2011, le pays n'avait pas été touché par une attaque terroriste. Le Maroc affirme avoir démantelé 185 cellules depuis 2012.
Au 7e jour d'un grand mouvement de protestation contre la vie chère au Soudan, des manifestants ont tenté une marche vers le palais palais présidentiel à Khartoum. Mais le dispositif de sécurité mis en place les en a empêchés. Depuis le 19 décembre, des manifestations ont été organisées dans une dizaine de villes. D'après Amnesty International, 37 manifestants ont été abattus par les forces de sécurité. Le point de départ de la contestation au Soudan, c'est la décision prise par le gouvernement de tripler le prix du pain. Le chef de l'Église catholique lance un appel à la paix en Terre Sainte et un appel au retour des réfugiés syriens chez eux. Lors de l'homilie de la nuit de Noël hier, le pape François avait dénoncé la voracité consumériste. Ce midi, place Saint-Pierre à Rome, il a délivré un message placé sous le signe de la fraternité. François s'est livré à un véritable éloge des différences, Mathilde Imberti.
Comme une nouvelle version du fameux « N'ayez pas peur » et une évidente référence au débat sur l'immigration. La différence est une richesse, insiste le pape François dans son message de Noël.
Nos différences ne sont pas un préjudice ou un danger, elles sont une richesse. Comme pour un artiste qui veut faire une mosaïque, c'est mieux d'avoir à disposition des tesselles de plusieurs couleurs plutôt que des tesselles de peu de couleurs.
Le pape qui prône la fraternité entre personnes de culture, d'idées, de religions différentes, dans la foule Nadège, conductrice de bus à Nancy, suit attentivement et applaudit.
On est qui pour juger les gens de par sa couleur, de par sa religion? Chacun de petit côté, il faut faire un petit pas tous les jours vers l'autre et je pense que c'est quelque chose qui est extraordinaire.
Le partage avant tout et surtout avant la voracité consumériste, un mal dénoncé par le pape lors de ses célébrations de Noël, une évidence bonne à rappeler selon Anne, dirigeante d'entreprise à Vannes en Bretagne.
C'est difficile pour nous de résister en fait aux tentations de la société de consommation, la compétition malgré tout, même matérielle. Et donc, de venir écouter le pape aujourd'hui nous remet peut-être aussi pour l'année à venir sur une voie un peu plus raisonnable et puis surtout d'apprendre peut-être à regarder les autres.
De quoi repartir du Vatican nourri de bonnes intentions. 50 000 fidèles ont assisté ce midi à la bénédiction Urbi et Orbi du pape François, la sixième depuis le début de son pontificat.
Mathilde Imberti, correspondante de France Culture à Rome. Discours traditionnel également pour la reine Elisabeth II depuis le palais de Buckingham. La reine d'Angleterre, bien consciente du climat lourd qui pèse dans l'attente d'un accord ou d'un échec de l'accord de Brexit. La souveraine appelle les Britanniques à faire preuve de respect les uns envers les autres, Haute-Sophie.
La reine ne se prononce jamais sur les affaires politiques du pays. Elle doit rester neutre, mais encore une fois, cette année, beaucoup essayent de lire entre les lignes de son discours, appelant à plus de paix et de bonne volonté. Le pays a été divisé toute l'année par le Brexit. C'est sans doute le sujet qui a été abordé et évité le plus par les familles en ce jour de Noël. Et dans son message, Elisabeth II souligne l'importance de dépasser les divergences.
Même avec les différences les plus profondes, traiter l'autre personne avec respect et en tant qu'être humain est toujours un bon premier pas vers une plus grande compréhension.
De nombreux éditorialistes y voient un message adressé notamment aux députés qui, à chaque session parlementaire, se sont écharpés sur la sortie du pays de l'Union européenne. Le discours diffusé aujourd'hui a été enregistré il y a 13 jours, avant donc l'épisode de mercredi dernier, lors duquel le leader de l'opposition, Jeremy Corbyn, a été accusé d'avoir traité la première ministre Theresa May de femme stupide en pleine chambre des communes.
Après 18 mois de détention en Corée du Nord, l'étudiant américain Otto Warmbier avait été rapatrié aux États-Unis. Il était alors dans le coma. Il était finalement mort le 19 juin 2017. Hier, un tribunal de Washington a condamné la Corée du Nord pour sa responsabilité dans la mort de l'étudiant, jugeant qu'il avait été victime de torture. Et Pyongyang est censé verser 501 millions de dollars aux parents du jeune homme au titre des dommages et intérêts. Retour sur ce jugement avec Grégory Phillips à Washington.
La juge Barry Howell a estimé que le régime nord-coréen était bien responsable de la torture, de la prise d'otage et du meurtre d'Otto Warmbier, ainsi que des souffrances infligées à ses parents. L'étudiant originaire de l'Ohio avait été arrêté en janvier 2016 à Pyongyang alors qu'il participait à un voyage organisé, interpellé pour le vol d'une affiche de propagande, puis il avait été condamné à une peine de 15 ans de travaux forcés. Finalement, après 18 mois de détention, l'étudiant de 22 ans avait été libéré mais très diminué physiquement. La juge américaine a déterminé qu'Otto Warmbier souffrait de graves lésions au cerveau, sans doute liées à des séances de torture. Il était mort 6 jours seulement après son retour sur le sol américain. En vérité, il n'y a quasiment aucune chance que Pyongyang accepte de verser ce demi-milliard de dommages et intérêts. Néanmoins, le jugement pourrait perturber les discussions en cours entre Washington et Pyongyang sur la dénucléarisation de la péninsule coréenne, alors que Donald Trump prévoit une nouvelle rencontre avec Kim Jong-un, peut-être au début de l'année prochaine.
Grégory Phillips à Washington. Après le refus du Brésil d'organiser la COP25, c'est le Chili qui a été choisi pour accueillir la prochaine conférence pour le climat. Rendez-vous est donné en janvier 2020 dans la capitale Santiago. En l'espace de 5 ans à peine, la part d'énergie renouvelable dans la consommation électrique du Chili est passée de 7% à plus de 20% et elle continue d'augmenter. Une hausse principalement due à l'essor exceptionnel de l'énergie solaire, particulièrement adaptée au climat du nord du pays, à tel point que le Chili est aujourd'hui le champion régional de l'énergie solaire. Justine Fontaine a pu visiter une centrale de photovoltaïque aux portes du désert d'Atacama.
À 600 km au nord de Santiago, près de la centrale El Pelicano, il n'y a pas un seul nuage, à l'horizon pas un seul arbre non plus. Et au milieu de ce paysage rocailleux, au pied de la cordillère des Andes, on aperçoit soudain une mer de panneaux solaires bleu foncé tournés vers le ciel.
Il y a 254 800 panneaux solaires ici. Ce n'est pas la plus grande centrale, mais c'est l'une des plus efficientes si on observe la radiation qu'elle reçoit et l'électricité qu'elle produit.
Marcelo Guerra est le directeur de cette centrale. Inaugurée il y a presque un an, elle fournit 42% de l'électricité consommée par le métro de Santiago, le plus grand d'Amérique du Sud. Et en ces derniers jours du printemps austral au Chili, elle fonctionne au maximum de ses capacités. Marcelo Guerra.
Ce lieu a été choisi pour ses conditions météorologiques. Ce sont les meilleurs au monde du point de vue principalement de la radiation solaire, de la température et de la vitesse du vent.
Des températures modérées pour éviter la surchauffe des panneaux, un peu de vent aussi, mais pas trop pour éviter la poussière, et enfin une radiation solaire parmi les plus élevées au monde. Voici les conditions qu'on retrouve dans le désert d'Atacama et ses environs, où est produite la majorité de l'énergie solaire du pays.
Proxima estación, La Moneda.
De retour à Santiago, nous avons rendez-vous avec le directeur général du métro de la capitale. Ruben Alvarado explique que l'entreprise, contrôlée par l'État, a choisi de miser sur les énergies renouvelables en pariant sur une baisse des prix à l'avenir et pour avoir une visibilité à long terme sur le coût de l'électricité qu'il consomme.
L'électricité étant l'une de nos principales dépenses, nous avons cherché, pour des raisons stratégiques, à conclure des contrats de longue durée. Et l'une des solutions qui s'est présentée à nous était de recourir à de l'énergie solaire pendant la journée et de l'énergie éolienne la nuit. Ces deux énergies étaient intéressantes d'un point de vue économique et nous l'avons pris en compte au moment de signer ces contrats.
Ce choix est aussi dû à une forte baisse des prix de ces énergies, en particulier l'énergie photovoltaïque, comme l'explique Claudio Agostini. Il est économiste à l'université Adolfo Ibáñez à Santiago et membre d'un projet de recherche sur l'énergie solaire.
Les coûts des panneaux solaires, les coûts de cette technologie ont beaucoup baissé, de 50% environ en l'espace de 6 ans. Personne n'avait jamais imaginé cela. Même les projections les plus optimistes ne prévoyaient pas une telle baisse. Et le solaire est donc devenu compétitif en termes de coûts face à d'autres sources d'énergie. C'est la première raison de cet essor et de loin la plus importante.
L'énergie solaire devrait continuer de se développer dans les prochaines années, aux dépens notamment des centrales à charbon très polluantes qui continuent de fournir près de 40% de l'électricité du pays.
Dossier signé Justine Fontaine. 429 morts et 154 disparus, c'est le bilan toujours provisoire du tsunami provoqué par une éruption volcanique en Indonésie. La recherche de survivants se poursuit le long des côtes des îles de Java et Sumatra. En ce jour de Noël, l'exécutif fait une pause, même si l'on verra Emmanuel Macron à la télévision ce soir, à l'occasion de son déplacement au Tchad auprès des soldats français de la base de N'Djamena. Le chef de l'État a en effet enregistré un message aux troupes qui sera diffusé dans l'émission Noël avec nos soldats sur France 2. Mais le président profite des fêtes pour souffler et il s'offre un repos discret, loin des tumultes de ces dernières semaines, Steven Goyer.
Et même si l'on n'est pas encore tout à fait à l'heure des bilans de 2018, tellement de choses ont changé en un an, rappelez-vous. Noël dernier, ces images du couple Macron dans les Hautes-Pyrénées, le président de la République, lunettes de soleil posées sur le nez, en terrasse de son restaurant favori à la Mongie, se prêtant bien volontiers ski en main au bain de foule, au jeu des selfies avec les curieux en bas des pistes. C'était il y a un an, un siècle, presque une éternité. Imaginez un instant ces images diffusées aujourd'hui, alors que certains gilets jaunes occupent toujours les ronds-points. On serait dans une communication pour le moins décalée. C'est d'ailleurs ce qui a poussé, selon les informations du Parisien, certains collaborateurs de l'Élysée, a insisté sur la discrétion de ses vacances de Noël, excepté ce tweet assez laconique ce matin. Brigitte se joint à moi pour souhaiter un joyeux Noël à chacun d'entre vous. Une semaine de repos débutée hier en famille, loin des objectifs et des fameux échanges avec les Français qu'affectionne pourtant Emmanuel Macron. Dans un lieu, là aussi, tenu secret, sans doute pour éviter les rassemblements. Il y a 4 jours, le président de la République a même dû fêter son 41e anniversaire à l'Élysée. L'impact de la grogne 2018, il est aussi là, avec la crainte d'être pris à partie désormais à chacune de ses sorties. Même souci de discrétion pour le gouvernement. À la demande du Premier ministre Édouard Philippe, lui aussi en repos pendant quelques jours, les ministres ont reçu la consigne de ne pas trop s'éloigner de Paris. C'est surtout vrai pour Christophe Castaner et Laurent Nunez, qui, après ce réveillon de Noël, devront gérer de la place Beauvau la sécurité de la soirée du Nouvel An.
Steven Goyer. Le grand débat national doit permettre aux Gilets jaunes et à l'ensemble des Français de dire ce qu'ils attendent encore de l'exécutif. Le prix des carburants est un point noir qui a cristallisé au début du mouvement la colère des Gilets jaunes. La hausse des taxes qui était prévue a été annulée et les automobilistes devraient en théorie être soulagés puisque depuis octobre, les prix du pétrole brut ont chuté de près de 30%. Mais voilà, cette baisse ne se répercute que très peu à la pompe. Francis Perrin, directeur de recherche à l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques, nous explique pourquoi.
Les carburants automobiles sont très lourdement taxés dans notre pays, ainsi que dans d'autres pays européens. Au moment où nous parlons, les taxes représentent à peu près 60% des prix à la pompe des carburants que nous utilisons, soit le gazole, soit les essences. Donc 60%, c'est très important. Sur le prix du pétrole brut, il n'y a pas 60% de taxes, il y a 0% de taxes. Le deuxième facteur qui fait la différence entre les prix du brut sur le marché mondial et les prix des carburants en France, c'est la question du rapport entre l'euro et le dollar. Les prix du pétrole sont cotés en dollars sur le marché mondial, et évidemment, les prix que nous payons en France pour les carburants, comme pour tous les autres biens et services, sont bien sûr libellés en euros, qui est la monnaie nationale et la monnaie européenne. Par conséquent, il est donc logique pour les automobilistes, et plus globalement les Français, de s'attendre à une baisse des prix des carburants, qui a donc commencé il y a quelques semaines, qui va se poursuivre dans les prochains jours, les prochaines semaines, mais il ne faut surtout pas penser que parce que les prix du brut ont baissé de plus de 40% depuis octobre, les prix des carburants doivent baisser de 40% entre octobre et les derniers jours de l'année 2018.
Francis Perrin, directeur de recherche à l'IRIS, joint par Hakim Kasmi. Eux aussi ont enfilé des gilets jaunes. Les militants de l'association Droit au Logement se sont donné rendez-vous cet après-midi devant le ministère du Logement pour exprimer leur colère. Ils rappellent à Emmanuel Macron sa promesse qu'il n'y ait plus de sans-abri, alors que depuis son élection, il y a eu 200 000 expulsions. Sarah Cozzolino, vous avez suivi l'action du DAL cet après-midi.
Et qu'est-ce qu'on veut ?
Qu'est-ce qu'on veut ? Ils sont une cinquantaine devant le ministère du Logement. Payés cher pour être mal logés, Naïma en a marre. Elle est aide à domicile et ça fait 13 ans qu'elle habite dans un 8 mètres carrés.
On habite dans un 8 mètres carrés, il n'y a rien. Il n'y a pas de douche, il n'y a pas de toilette, il n'y a pas de cuisine, il n'y a pas même pas un coin de cuisine. Donc c'est pas un logement, c'est une cage. Donc je souffre, j'ai de l'asthme, je souffre.
Un sentiment d'injustice que partage Jade, 25 ans. Elle vit avec son mari et ses 2 enfants dans un petit studio en Seine-Saint-Denis. La famille réclame un logement social depuis 5 ans sans réponse.
En fait, se battre autant pour quelque chose qui est tellement normal d'avoir un toit, d'avoir un logement sain, d'avoir... Je voulais juste être avec tous ces gens qui sont dans ma situation et qu'on se soutienne et qu'on essaye d'aboutir à des solutions.
Alors l'association du droit au logement souhaite rappeler au président de la République ses promesses. Jean-Baptiste Hérault, porte-parole de l'association.
Il s'est quand même engagé en 2017 à ce qu'il n'y ait plus de sans-abri dans les rues d'ici la fin de l'année. On n'en a jamais compté autant et on constate que depuis l'élection d'Emmanuel Macron, il y a eu 746 sans-abri qui sont décédés et plus de 200 000 jugements d'expulsion qui ont été rendus.
Pour marquer l'événement, les militants ont voulu offrir un cadeau symbolique au ministre du Logement, des cafards et des punaises emballés dans une couverture de survie sur laquelle on peut lire « La rue, c'est la mort à petit feu ».
Et les associations de solidarité font les comptes. Elles mesurent les effets de la suppression de l'impôt sur la fortune. L'association ATD Quart Monde constate une baisse de 12% des dons par rapport à l'année dernière. Et la FNARS, Fédération des acteurs de la solidarité, craint une baisse de 20 à 50%. Le temps sera calme demain, mais encore assez gris. Le soleil fera de belles percées en bord de Méditerranée. Le matin, les gelées seront généralisées au nord de la Seine. L'après-midi, il fera 3 à 8 degrés sur la moitié nord et Rhône-Alpes, 8 à 15 plus au sud. Ce journal a été préparé avec Mathilde Julien.